Nous avons rendez-vous avec une pionnière de l'histoire africaine dans ce numéro du magazine dont nous vous proposons une rediffusion. Notre invitée est en effet Catherine Kokri-Vidrovitch qui nous livre une autobiographie intellectuelle qui a pour titre « Le choix de l'Afrique ». Nous allons parler du parcours de cette intellectuelle qui se définit comme une généraliste de l'histoire africaine. Au fil d'une longue carrière, j'ai eu la chance de contribuer à la jeunesse de l'histoire africaine dont l'écriture débuta en France avec les indépendances francophones, note-t-elle dans l'ouvrage. Cette carrière qui embrasse un demi-siècle d'histoire du continent qu'elle a sillonné et dont elle a observé l'évolution avec une extrême attention depuis son premier voyage au Gabon en 1965. Nous vous proposons ainsi un nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, votre plateforme préférée ou l'application RFI Pure Radio. Bonjour Catherine Kokri-Vidrovitch.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous avoir à ce micro. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre une pionnière.
Alors, à supposer que j'en sois une, oui, effectivement.
Ah oui, vous êtes une pionnière de l'histoire africaine. Le continent vous doit beaucoup et nous vous devons beaucoup, nous qui vivons en Europe, sur la connaissance de l'Afrique. Alors, je rappelle, dois-je le faire, que vous êtes historienne, professeure émérite de l'Université Paris Diderot.
Devenue l'Université de Paris aujourd'hui.
Oui, ça change très vite. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, par exemple L'Afrique noire de 1800 à nos jours, avec Henri Moniaud, en 1974, avec une réédition récente en 2005. Auteur également d'Afrique noire, Permanence et rupture chez Payot en 1985, d'une petite histoire de l'Afrique à la découverte en 2010. J'arrête la liste parce que les livres sont très, très nombreux. Catherine Kokri-Vidrovitch, y a-t-il un pays africain où vous n'êtes pas allée ?
Ah oui, mais pas très nombreux, effectivement, parce que j'avais envie de connaître le plus possible l'Afrique et les Africains. Et chaque pays qui a une histoire particulière depuis assez longtemps, depuis les débuts de la colonisation en fait, ça fait quand même pas mal de temps, a une physionomie particulière au premier coup d'œil, qui est un coup d'œil rapide. On tombe dans des univers différents. Et je voulais justement me rendre compte à quel point l'Afrique est... Elle est grande, c'est un très vaste continent, subcontinent, et avec des cultures et des histoires tout à fait différentes d'un bout à l'autre, contrairement à ce que l'on pense. On dit toujours l'Afrique. Bon, ben l'Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose.
Les Afriques. Vous vous définissez, Catherine Kokri-Vidrovitch, comme une généraliste de l'histoire africaine.
Ben, j'ai eu envie de connaître un petit peu tout et j'ai beaucoup de goût pour la comparaison, pour la confrontation, pour comprendre ce qui se passe dans un domaine particulier, une situation particulière par rapport à ce qui se passe ailleurs. Parce que en histoire, en réalité, vous avez aussi des grandes tendances générales sur le plan mondial, avec énormément de diversité sur place. Et c'est la même chose pour les différents États africains aujourd'hui et les sociétés qui sont effectivement multiples.
Alors nous allons effectivement parler de ce périple, de ce travail, de cette vie de recherche. Mais il nous faut, Catherine Kokri-Vidrovitch, parler de votre jeunesse, de votre enfance, qui est l'enfance dans une famille juive sous l'occupation.
Oui, absolument. J'ai voulu savoir pourquoi je m'étais intéressée à l'histoire africaine alors que je n'avais absolument aucune attache avec l'Afrique. Je n'avais pas un grand-oncle ou un arrière-grand-père qui avait été administrateur colonial ou explorateur. Pas du tout. Je savais à peine où était l'Afrique, comme la plupart des petits Français. Mais effectivement, j'ai été très jeune, entre 4 et 9 ans. J'ai connu la clandestinité. Parce que nous étions, mes parents étaient d'origine juive. Bon, j'ai un grand-père qui a migré d'Ukraine, mais en 1899. Donc très, très français, en fait, très nationaliste français. parce qu'il était très fier d'être français, et désespéré à la Deuxième Guerre mondiale, il s'est même suicidé de désespoir. Mon père est mort en 1942, lui-même s'est suicidé un petit peu après à cause de tout ça. Et mon autre grand-père a été déporté parce que il ne s'était pas, parce qu'il s'était déclaré. Donc mes parents avaient décidé de ne pas se déclarer. J'ai donc vécu une vie clandestine, très consciente et très normalement, je dirais, parce que je n'avais pas de souvenirs d'avant. J'étais trop petite. Par conséquent, tout ce qui était complètement anormal, pour moi, c'était normal. Et donc, grâce à ma mère qui à 32 ans, s'est retrouvée toute seule, sans mari et sans adulte
antérieur,
et qui n'avait jamais travaillé elle-même, mais qui était une femme très énergique et qui s'est complètement révélée à ce moment-là, d'une façon très, très dynamique, je n'ai jamais eu peur à l'intérieur de ce cercle familial très, très étroit. Mais j'ai su absolument ce que c'était que la clandestinité, complètement consciemment. Et c'est un peu ça, je crois, qui m'a rapprochée de l'histoire africaine. En tous les cas, c'est un point commun. Les Africains, pendant la colonisation, ils ont été comme les Juifs français, puis les Français résistants pendant la guerre, occupés. Ils ont été occupés, donc quand ils ont résisté, ils étaient dans la clandestinité. Et je pense que c'est à la fois très différent et très similaire. Et quand je disais ceci à mes concitoyens français, enfin, à mes amis, les Africains ont été occupés, ça leur paraissait très choquant, parce que l'occupation, c'est l'occupation allemande de la France, point. Ben non, c'est un phénomène, je dirais, classique dans l'histoire.
Ah oui, vous écrivez « Le début de mon histoire personnelle est intrinsèquement lié à mon métier, celui d'historienne de l'Afrique », Catherine Kokri-Vidrovitch. Ce qui veut dire qu'à la libération, à la fin de la guerre, vous êtes engagée dans les études tout court, et ensuite les études d'histoire. Vous avez passé en 1958 l'agrégation d'histoire.
Alors, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié pourquoi, j'ai toujours voulu faire de l'histoire. Je raconte même qu'en classe préparatoire, comme il y avait, c'était la guerre, il y avait qu'un petit livre d'histoire pour deux. J'ai chipé un livre d'histoire tellement j'aimais ça. Alors, c'est difficile de dire, j'avais envie de comprendre.
Le destin nous a été favorable, Catherine Kokri-Vidrovitch, parce que vous avez failli être spécialiste du Moyen-Âge.
Ah oui, absolument. Oui. Alors là, il y a eu, si vous voulez, le premier choc, ça a été effectivement la clandestinité, la résistance, le savoir d'être différente des autres. Et par ma mère, qui était très astucieuse, de penser que c'est nous qui avions raison, ce qui était très important, parce que tout expliquait que les Juifs étaient la lie du monde, les affiches, la radio, etc. Et donc, non, je ne savais pas, je n'ai su d'ailleurs que j'étais juive que par la guerre, puisque ma famille était complètement assimilée et n'était pas croyante. Et le deuxième choc, effectivement, ça a été la guerre d'Algérie. Parce qu'évidemment, j'étais contre la colonisation, comme la plupart des jeunes de mon époque. Et mon mari était un sursitaire tardif. Il est parti au service militaire à 27 ans, c'était au maximum. Il passait l'agrégation juste avant.
Et c'était un service militaire long, en plus.
Et il a fait 27 mois et demi de service militaire, c'est-à-dire pratiquement 3 ans d'interruption. C'était très lourd, dont un an en Algérie, à Oran. Moi, à ce moment-là, j'étais jeune professeur de lycée. Il y a eu les congés scolaires et j'ai sauté sur l'occasion à congé de Pâques pour aller le voir à Oran. Et là, j'ai eu un coup au cœur. Je me suis dit, je ne connais pas du tout. C'est quelque chose à explorer. Et effectivement, j'aimais bien l'histoire du Moyen-Âge. J'avais vu un grand professeur que j'admirais beaucoup qui m'avait proposé Paris au XVe siècle et qui m'avait dit, c'est très difficile, je ne vous dis pas que vous n'y passerez pas votre vie. Je n'avais pas tellement envie de passer ma vie au XVe siècle.
Alors Catherine Kokri-Vidrovitch, vous avez donc découvert l'Afrique en découvrant l'Algérie.
Absolument. Et j'ai trouvé que c'était un pays superbe, avec des gens très attachants. Et puis j'y ai retrouvé aussi, parce que c'était en 1960, ce sentiment de la clandestinité. L'épicier où j'allais faire mes courses, finalement, s'est révélé, je ne le savais pas à l'époque, un chef du FLN après. Et il y avait des gens qui étaient dans la clandestinité, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Bref, j'ai trouvé un pays en guerre, qui m'a rappelé effectivement quelque chose.
Alors l'agrégation d'histoire, je le disais, en 1958, vous avez fait Normale Sup aussi, Catherine Cochry-Vidrovitch. Et après, vous êtes retrouvée, si j'ose dire, à l'école pratique des hautes études. Alors à quel moment vous avez commencé vraiment à travailler sur l'histoire africaine?
Dès que j'ai... Quand je suis revenue d'Algérie, c'était en 60, j'ai décidé d'apprendre l'arabe, puisque je pensais travailler sur l'Afrique du Nord. J'ai fait 3 ans d'arabe, j'étais prof de lycée, et le hasard, là c'était le hasard, m'a fait rencontrer un directeur d'études de l'école pratique des hautes études, qui s'appelle maintenant le HESS, qui cherchait un assistant, une assistante pour faire de l'histoire de l'Afrique. On disait l'Afrique noire à l'époque. Mm-hmm. Maintenant on dit Afrique subsaharienne, parce qu'on s'est aperçu qu'Afrique noire c'était un terme colonial. On ne désigne pas un continent, les habitants d'un continent, par un trait physique. Et bon, ça, alors là, je me suis dit pourquoi pas, c'était l'Afrique, je ne connaissais ni l'un ni l'autre, et je me suis lancée donc dans ce champ qui me plaisait parce que précisément c'était un champ à découvrir.
C'est ça, tout était à faire à l'époque.
Tout était à faire, tout était à faire.
Qui est stimulant.
Faut pas exagérer, tout n'était pas à faire, vous aviez les anthropologues.
Oui.
L'Afrique subsaharienne, c'était le domaine de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie. Mais c'était pas du tout les historiens. Jusqu'alors, c'était préoccupé essentiellement de l'histoire de la colonisation, la voyant du côté français, comment les Français avaient colonisé. Moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. Aux hautes études, on voulait étudier les sociétés autres. C'était, si vous voulez, à l'époque, la première découverte de ce qu'on appelle maintenant l'histoire globale. Voir l'histoire à partir d'un continent. Et là, il y avait un centre d'études africaines. C'est là que j'ai appris. En fait, entre donc en 62 et ben dans les années 60. Mon apprentissage a duré pendant toutes les années 60.
Et c'est à cette époque que vous avez décidé de faire vos thèses, et il fallait faire 2 thèses.
Il y avait la thèse complémentaire qui était séparée de la thèse d'État, qui était sur une mission d'exploration de l'explorateur Savordian Brazza en Afrique équatoriale. Donc c'est un petit peu décidé du champ. De mon champ de recherche qui a commencé à être l'Afrique équatoriale, et mon directeur de recherche, Henri Brinjvic, avait trouvé dans les archives une masse extraordinaire de dossiers sur le régime économique choisi par la France pour exploiter l'Afrique équatoriale à partir de la fin du 19e. Ça a été ma thèse d'État.
Ah oui, donc l'histoire en quelque sorte des grandes compagnies concessionnaires.
L'histoire des grandes compagnies concessionnaires.
Dans ce qu'on en appelait l'AEF à l'époque.
L'État français, le gouvernement français, ne voulant pas investir dans ce qu'il considérait être une aventure extravagante, a dit ben on va le céder aux sociétés privées qui vont investir à notre place. C'était une grave erreur parce que les sociétés étaient des sociétés commerciales qui n'avaient pas du tout l'intention de faire des investissements à long terme. Une société commerciale, ça veut faire des profits tout de suite. Donc elles ont vécu sur l'exploitation du caoutchouc qui commençait à devenir très important à cause de l'industrie automobile et de l'ivoire, c'est-à-dire en ratissant ce que produisaient ce qu'on appelait les indigènes et en faisant le minimum d'investissement. Ça a été un régime très dur, comparable d'une certaine façon, peut-être un peu moins terrible, mais comparable à ce qui se passait du côté belge, dans ce qu'on a appelé l'État indépendant du Congo, qui était une propriété personnelle du roi des Belges depuis 1885 et qui ne deviendra colonie belge qu'en 1907, après des scandales épouvantables, justement.
Qu'a raconté, par exemple, Joseph Conrad dans Le cœur des ténèbres?
Oui,
par
absolument.
Exemple.
Alors, les scandales du Congo belge, surnommés à l'époque les scandales du Congo, il n'était pas encore belge, ça deviendra une colonie en 1907, tandis que les scandales qui ont été très importants et que j'ai découverts, d'ailleurs, en particulier en Ouborghi-Chari, c'est-à-dire
en Centrafrique,
Étaient du même ordre en réalité et ont été, je l'ai découvert effectivement dans les archives, parce que tout ça se trouve dans les archives en fait.
Alors on va en parler des archives, Catherine Cochry-Vidrovitch. Et en août précisément, vous débarquez pour la première fois en Afrique, vous avez découvert l'Algérie, mais vous découvrez en 1965 le Gabon pour la première fois dans le cadre de vos recherches.
Absolument, oui, oui. Donc, je partais toute seule, avec mon sac à dos, ma moustiquaire portable,
c'est là que commence
mon
l'aventure.
Filtre portable. Enfin, vraiment, je suis partie comme une jeune aventurière. J'avais 29 ans, oui, à l'époque. Un peu inquiète quand même de savoir ce qui allait m'arriver, mais je dirais intrépide. C'était, et je pense que cette intrépidité, justement, je la dois à mon enfance.
Et vous l'avez gardée ?
Et je l'ai gardée, oui. J'ai gardé. Ça commence à ralentir quand même.
C'est important de le signaler. Catherine Cochry-Vidrovitch, vous allez donc à ce moment-là partir en quelque sorte à la recherche d'archives ?
Oui, entre autres. En fait, des archives, j'en ai très peu trouvées. Parce que, quelques-unes quand même, et importantes, parce que la plupart se trouvaient en France en réalité. D'abord, je les attendais beaucoup parce qu'elles avaient été importées d'Afrique équatoriale, du Brazzaville, au moment de l'indépendance, et il n'y avait pas de bâtiment pour les garder. Donc, j'ai commencé à pouvoir les connaître un petit peu en 65, parce que j'ai aidé à les sortir des caisses où elles avaient été stockées pendant plusieurs années sur les caisses. De Bordeaux en particulier, donc le dessous des caisses était un peu pourri, mais donc j'ai trouvé quelques archives, mais j'ai surtout trouvé des gens. D'abord, j'ai connu le milieu. Je travaillais en particulier sur les compagnies forestières. J'étais assez bien accueillie parce que j'avais eu la prudence de me munir de recommandations des présidents de sociétés en France. Donc, c'était un bon sésame. Donc, ce que je craignais être une jeune femme seule dans un pays inconnu, ce qui m'inquiétait quand même un petit peu, ben, je me suis aperçue que finalement, à l'époque, c'était plutôt positif parce que les Français, ce qu'on appelait les expatriés depuis l'indépendance, se disaient une jeune femme seule, recommandée, il faut l'aider. Et puis alors on me cherchait des occasions. Alors l'occasion c'était comment aller en brousse à tel chantier. Bon, il y a un PDG ou un directeur qui a un avion 4 places, il va y aller, ben, il peut vous prendre par exemple, des choses comme ça. Donc j'ai eu plein de petites aventures de ce genre. Et puis pour les Africains, j'étais quelqu'un de très inhabituel. Et ils étaient tout à fait agréables et gentils, donc j'ai eu aucun problème.
Alors ça, c'est le bon côté des choses, Catherine Cochry-Vidrovitch, mais vous racontez dans ce livre, qui est vraiment passionnant, le choix de l'Afrique, que vous avez aussi rencontré les Français qui étaient restés sur place, et vous dénoncez, vous avez découvert à ce moment-là un racisme que l'on pourrait qualifier de racisme néocolonial.
Ah, complètement. Alors là, ça m'a saisi, parce que je ne connaissais pas, donc j'ai été vraiment étonnée. Moi, le racisme, je connaissais. Le racisme antisémite, je le connaissais. Mais j'avais une gamine de 8 ans qui m'avait dit, en allant à l'école, les Juifs sentent mauvais, on les reconnaît à l'odeur. Et moi, qui étais clandestine, je lui avais dit, raconte-moi quelle est leur odeur pour que je puisse les reconnaître. Et moi, j'étais très contente de me moquer d'elle à l'intérieur. Donc, le racisme, je connaissais. Mais le racisme anti-noir de néocolonial m'a prise à la gorge parce qu'il était absolument naturel. Les Blancs parlaient des Noirs comme si c'était des grands singes, en particulier au Gabon, en Côte d'Ivoire aussi. Enfin, ça dépendait des pays. Mais en Afrique équatoriale, c'était vraiment très violent. Et je me disais, quelquefois, il faut que je me pince. Je ne suis pas en 1880, je suis 5 ans après l'indépendance. Les Blancs, disons, d'une façon générale, n'étaient pas du tout gênés de parler des Noirs en disant ils sont bêtes, rien à en tirer, ils sont paresseux, enfin, tous les pensifs habituels. Et quand même, assez général, pas tout le monde.
Oui, vous ajoutez,
quelques personnes intelligentes.
Vous ajoutez, ne soyons pas injustes, il existait aussi des Européens intelligents et attentifs aux populations.
Absolument, mais avec quand même beaucoup de paternalisme, très oui, protecteur. Et alors, le tutoiement généralisé, et ça continue encore. Hein. Les touristes, maintenant, continuent à tutoyer les gens. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Moi, les gens que je ne connaissais pas, je gardais mes usages, je les vouvoyais. Mais j'étais la seule. Un noir, ça se tutoyait.
Alors, dans cette vie d'aventure, cette vie aventureuse, Catherine Cochry-Vidrovitch, vous avez continué à travailler, évidemment, sur vos recherches.
Oui.
Vous étiez là pour ça. Et vous avez fait une recherche sur les concessions, hein, notamment de la concession de l'Mpoko, non, c'est ça ?
Oui. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer aussi...
Je voulais revenir à cela, à votre rencontre avec un ancien gouverneur qui s'appelait Gaston Guibet.
Gaston Guibet, oui.
Alors, voilà, c'est une rencontre providentielle pour une chercheuse.
Ah oui, absolument, ça, c'était une grande rencontre.
Alors, je
l'ai rencontré dans un salon à Libreville, il était conseiller du président Mba. Il ne m'a pas prise au sérieux, j'avais l'air d'une gamine et lui, il avait probablement déjà 90 ans à l'époque. Seulement, j'ai eu la chance de le rencontrer à Njolé, à l'intérieur du pays. J'étais toute seule avec mon sac à dos, je raconte ma gourde en cuir qui fuyait toujours un petit peu. Et lui avait eu un petit accident d'avion qui était tombé. C'était les petits avions qui tombaient sans faire de mal.
La routine, en quelque sorte.
Bon. Bref, il s'est aperçu que là, j'étais sérieuse et je lui ai dit que je travaillais sur les compagnies concessionnaires. Et il m'a dit, si vous trouvez quelque chose sur la MPOCO, je pourrais vous en parler. Alors évidemment, 3 mois après, quand je suis rentrée à Paris, je me suis précipitée sur les archives de la MPOCO. Il y en avait, 100 mètres de rayonnage. C'était une histoire épouvantable, absolument épouvantable. Et lui se trouvait... comme jeune administrateur colonial non titulaire pour son premier poste à Bangui. Il a compris qu'il se passait quelque chose, il a fait un rapport. Bon, il a voulu être acheté par le directeur de la compagnie concessionnaire qui lui a offert une enveloppe. Il ne mangeait pas de ce pain-là, il a fait un rapport. Il y a eu une mission de 6 mois dans la forêt. Il y a découvert, entre autres, un directeur local qui s'était suicidé, s'apercevant. Et la mission a conclu à 750 meurtres effectifs. Tous les Africains vus dans la forêt qui ne récoltaient pas du caoutchouc et 1500 probables.
Et concession qui était dirigée par un Norvégien, il me semble.
Oui, c'est ça, par un Norvégien, effectivement. Un Norvégien qui avait fait des trucs fort mal et qui s'était fait chasser du Congo belge. Il fallait que ça soit terrible pour qu'il était venu se refaire une santé au Congo français, qui repartit en Norvège et qui a fini sa vie comme un grand explorateur très connu, faisant des conférences. C'est-à-dire qu'en Norvège, personne n'a connu ce passé. Alors, les accusés se sont sauvés, ils sont tous passés du côté, ils ont traversé le fleuve, ils sont passés du côté du Congo belge. Et finalement, l'affaire s'est terminée à Brazzaville, par un non-lieu. Et le jeune Guibet a été convoqué par le ministre des colonies. Qui lui a dit, vous comprenez, en ce moment, il y a des scandales du Congo, c'est épouvantable, il ne faut pas qu'on en parle, etc. Vous me donnez votre parole d'honneur que vous n'en parlerez pas. Il n'en a jamais parlé, ce qui fait que ça a été totalement étouffé.
Et ces centaines de victimes étaient victimes du travail qu'on leur avait demandé de faire.
Absolument. Ils allaient dans la forêt pour couper les lianes, pour recueillir le latex qui donnerait le caoutchouc. Et tous ceux qui n'étaient pas en train de travailler au latex, bien les gardes, qui étaient aussi des Africains, mais d'autres régions, souvent d'Afrique occidentale, tiraient dessus. Et ils devaient donner le compte de leurs cartouches. Et comme il était interdit de chasser, une cartouche, c'était un mort. Comme ça qu'ils avaient compté. C'est probable. En tous les cas, les récits qui ont été faits à Guibet aussi. Et Guibet, donc, n'a pas rompu sa parole d'honneur parce qu'il m'a dit « Cherchez, et si vous cherchez, je vous raconterai ». Et il m'a donc dit des choses qu'on ne trouvait pas dans les archives, effectivement, en particulier que ça a été totalement dissimulé jusqu'à ce qu'il m'en parle. C'était un secret d'État. C'est allé jusque sur le bureau du président, d'après mes archives. Mongoloi, o mumbe umpo wolumi, ungambulungo ungamfumye. Monga kirungule na mwana jembo ngwingwomo. Yengwongoi. Monga kirungulunga tsengukaka kuvanku njenbe. Yengwongoi. Monga kirungutinuluna nsamwa ngwinsini. Yengwongoi. Monga fora bulira mwana dharma bomanga ngwomo zungangwo. Tarabaula mwana ngulilo
Le magazine Idée, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Catherine Kokri-Widrowicz, une pionnière de l'histoire africaine. Alors Catherine Kokri-Widrowicz, vous ne cessiez à l'époque de faire des allers-retours entre le continent africain à l'heure des indépendances et la France. Et à cette époque où il y avait une effervescence politique et un climat révolutionnaire, il y a eu une certaine année 1968 avec un mouvement qui a intéressé, j'imagine, en France, à Paris, la jeune chercheuse, curieuse et investie que vous étiez.
Oui, oui, absolument. Et nous étions à l'école des hautes études, justement, toute une série de jeunes passionnés par la question. Nous discutions tous les matins pendant le mois de mai. Nous avons fait les défilés, les manifestations. Et puis, il y avait une vivacité des discussions entre intellectuels absolument extraordinaire. On se réunissait beaucoup, on discutait beaucoup, on voulait repenser tout un certain nombre de données, en particulier Staline était mort déjà depuis un certain temps. Ses propositions pour les gens de gauche, les jeunes de l'opposition étaient, on a oublié ça aujourd'hui, nous étions tous de jeunes communistes ou de communisants. C'était être contre. Après, ça paraît comme absurde, mais à l'époque, c'était très vivant. Mais à condition de repenser, justement, toutes les sottises que Staline, en particulier, avait dit sur les pays sous-développés. Donc, il y a énormément de discussions sur les recherches, sur la compréhension des systèmes économiques des sociétés non occidentales, à laquelle j'ai participé à ma façon en écrivant un article sur ce qu'on appelait à l'époque le mode de production. Le mode de production, est-ce qu'il y a un mode de production alors qu'il n'était pas capitaliste occidental? C'est tout un vocabulaire qui a disparu.
Ça fleure bon une époque.
Oui, c'est toute une époque. Mais quelle est la façon d'organiser la production et l'économie dans les sociétés africaines? Et à mon étonnement, cet article a eu un énorme retentissement. Il a été traduit au moins 3 fois en anglais. Et il m'a demandé beaucoup de conférences. Il date de 69, je crois. Donc vous voyez, c'est toute une époque, en fait. Et cette espèce d'engouement a duré au moins jusque dans les années 1975. Après, c'était fini. C'était une époque frémissante, véritablement. On discutait beaucoup.
Catherine Kokri-Widrowicz, non seulement vous avez fait de la recherche, vous avez passé votre vie à faire de la recherche sur l'histoire africaine, mais vous avez également enseigné.
Ah oui, ça c'est une...
En France et en Afrique.
Alors, en France, c'était mon poste normal. J'ai été à partir de 1972 à l'université Paris, qui s'appelait à l'époque Paris Jussieu, qui s'appelait Paris Diderot, qui est maintenant devenue l'université de Paris. J'y suis resté de 1972 à 2002, en prenant ma retraite. Et j'y ai enseigné l'histoire africaine, l'histoire de l'Afrique. Et nous avons eu beaucoup de jeunes Africains, dans la mesure où il y avait en Afrique francophone une seule université à l'époque, l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, qui ne s'appelait pas encore Cheikh Anta Diop, qui n'avait pas en histoire le niveau troisième cycle et thèse. Donc tout jeune historien qui voulait devenir historien devait venir en France. Et nous étions très peu en France. Nous étions deux véritablement spécialistes, trois en comptant spécialistes d'Afrique du Nord, pour l'ensemble de la France. Donc j'ai vu passer dans mes séminaires beaucoup de jeunes, d'apprentis historiens africains. Et j'ai connu, je dirais, 4 ou 5 générations. Pour former un chercheur, vous avez besoin de 5, 6 ans, 7 ans maximum. Puis ils repartaient en Afrique, ils allaient enseigner dans leurs universités. Il y avait rien. Après, il y a eu, à partir des années 70, plusieurs universités dans les différentes capitales francophones. Et donc, ils n'avaient pas de difficulté pour trouver un poste, puisque tout manquait. Donc, ils ont enseigné très vite et ils ont commencé à former sur place. Mais moi, j'ai vu passer comme ça, disons, 4 ou 5 générations entre 72, où j'ai commencé à travailler avec l'université de Dakar, et le début des années 80, où les deux premières thèses d'État soutenues à l'université de Dakar en histoire ont été soutenues en 1982. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 80, pour pouvoir diriger des thèses, il fallait, selon les lois françaises qui étaient adoptées à Dakar, être docteur d'État. Il n'y en avait pas encore. Et par conséquent, j'ai été habilité par mes collègues dakarois au conseil de l'université de Dakar pour diriger des thèses. Et j'y allais 6 semaines par an. J'y suis allé pendant une bonne vingtaine d'années, entre 72 et le début de ce siècle. Donc même plus, je pense, une trentaine d'années. Et évidemment, il y avait de très bons chercheurs à Dakar, internationaux d'ailleurs. Il y avait un Guinéen, il y avait un Malien, il y avait un Camerounais.
C'est ça, vous avez, Catherine Kokri-Vidrovitch, assisté au début de l'internationalisation de la recherche sur l'Afrique.
Oui. Et c'était ces très bons historiens originaires de différents pays étaient à l'université de Dakar parce qu'il y avait des dictatures dans leur pays et qu'ils étaient expulsés de leur pays. Donc c'était un très bon enseignement, une très bonne équipe. Et si vous voulez, moi j'y étais 6 semaines dans l'année. Alors évidemment, je travaillais beaucoup, mais je signais parce qu'il fallait une signature. Et c'est eux qui travaillaient toute l'année. Et nous avons eu donc une collaboration qui était, disons au début, ce qu'on appelait une collaboration de substitution, parce que j'étais la compétence, disons, mais très vite, ça a été une association avec des échanges très forts entre mon laboratoire à Paris et le laboratoire Cheikh Anta Diop, ce qui fait que j'ai énormément maintenant de collègues et amis qui sont en train à leur tour de prendre leur retraite d'ailleurs.
Et qui nous écoutent sans doute en ce moment même, Catherine Kokri-Vidrovitch. Vous écrivez dans votre livre, pendant les années 1970 et 1980, j'ai complété mon expérience sénégalaise par une série de missions d'enseignement dans les autres universités francophones, dans des pays offrant chaque fois une approche différente. Alors là, la liste, je retiens mon souffle. Burkina Faso, Niger, Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin, Togo, Congo, Centrafrique, Tchad et Rwanda.
Ben, je le dois à mes anciens étudiants, très souvent, qui revenaient dans leur université et qui m'invitaient à venir enseigner. C'était toujours des périodes de 6 semaines, parce que moi j'enseignais à Paris, donc, et légalement j'avais le droit de m'absenter 6 semaines dans une année à condition de me faire remplacer sur place. Et ça m'a effectivement permis énormément d'expériences, énormément de rencontres dans tous les pays francophones. Mais les pays francophones, ça, c'était partiel, disons. J'ai eu aussi un certain nombre d'expériences dans les pays anglophones ou lusophones, et très important pour pouvoir comparer.
Vous avez suivi, évidemment, avec ce parcours, l'évolution politique du continent africain. Vous attardez par exemple sur le Mali en 1991, hein, avec le renversement de Moussa Traoré. Vous avez été une observatrice de premier plan sur l'évolution. Vous avez observé l'évolution de ces pays nouvellement indépendants.
Par hasard, je me suis trouvée dans un ou deux pays, enfin au moins deux pays, au moment d'un coup d'État. Ou un coup d'État qui se préparait. Et en particulier au Mali, j'ai débarqué pour faire... mon enseignement à l'ENS le soir d'une émeute formidable qui fait que tout était fermé. Je n'ai pas évidemment enseigné, mais j'en suis revenue en faisant un petit article dans Le Monde en disant Moussa Traoré, c'est fini, quoi. Et deux mois après, ça a été la révolution et effectivement ce régime est tombé.
En 1991, hein, donc c'est une époque récente.
Oui, oui, oui.
Oui, donc vous étiez à la fois chercheuse en histoire de l'Afrique, mais aussi analyste de l'Afrique contemporaine.
Oui, oui. Et alors j'ai vu effectivement cette évolution, alors qui a été très intéressante après les années 60, parce que j'ai vu vraiment le début, enfin pour moi après les années 70, c'est-à-dire la façon dont fonctionnaient d'une part des dictatures qui existe malheureusement encore toujours dans un certain nombre de pays, et en particulier au Gabon. J'ai été reçu par le président Bongo.
Ah oui, vous racontez de ça dans le livre.
Dans une entrevue absolument... il faut l'avoir vécu pour le savoir.
Il était prêt à vous donner une valise de billets ?
Ah oui, absolument. Il avait un tiroir, d'ailleurs. On disait, il y avait un tiroir, il était prêt à ouvrir son tiroir. Tout ça parce que j'avais collé à la maîtrise un très mauvais étudiant qui s'était avéré être le neveu de Bongo. Donc, il m'a convoqué. Moi, je ne savais même pas qu'il savait que j'étais là. Enfin, ses services d'espionnage étaient bien faits. Et il m'a entretenu de choses et d'autres, ce que je raconte dans l'ouvrage, de façon assez farfelue, pendant 2h30, jusqu'à ce que j'invente une formule qui me paraissait convaincante et étonnante. Je lui ai dit, vous savez, il avait eu la mention passable, malheureux étudiant, et encore gentiment, je lui dis, monsieur le président, la collation des grades, c'est le ministère qui s'en occupe maintenant, moi je ne peux rien en faire. Et j'étais sortie, et le directeur du département d'histoire de l'époque, qui était quelqu'un de tout à fait remarquable, à qui j'ai raconté ça, en me disant, je ne sais pas ce que ça va donner, il m'a dit, oh, ne t'inquiète pas, le frère de celui-là, il a raté la capacité en droit, il est président de la Cour de cassation.
Alors, tout était permis.
Voilà, donc tout est permis, oui.
Catherine Cochry-Vidrovitch, non contente d'enseigner en Afrique, de diriger des travaux de recherche en Europe, vous êtes allée aussi enseigner aux États-Unis.
Oui, et ça a été effectivement très enrichissant aussi, parce que les études africaines se sont développées parallèlement aux études françaises. Alors c'est difficile à concevoir maintenant, mais la circulation des ouvrages scientifiques, elle était difficile. Commander un livre aux États-Unis, ça pouvait mettre plusieurs semaines et on était peu informés. Alors j'ai eu la chance d'être invitée comme professeur invité, mais avec des contrats renouvelés à la State University of New York entre 1981 et 2005, pratiquement tous les ans. Et j'étais dans un département très proche de notre laboratoire, c'est-à-dire comparatiste, essayant de faire l'histoire du monde. On en parle beaucoup maintenant, aujourd'hui, l'histoire globale, etc. Mmh. C'était déjà inventé à l'époque par ce département exceptionnel, aussi bien aux États-Unis qu'en France, où nous essayions de faire un petit peu la même chose. Et j'étais donc en contact avec l'ensemble des personnalités spécialistes de l'histoire africaine qui passaient justement dans cette université à Binghamton. Et puis, j'ai surtout pu bénéficier d'une bibliothèque absolument extraordinaire, donc d'une littérature en anglais fantastique, qui m'a mise au courant véritablement du savoir international sur l'histoire africaine.
Est-ce à partir des États-Unis que vous avez vu voir émerger les études sur la mémoire de l'esclavage ? Que vous avez vu émerger cette mémoire ?
Alors non,
l'histoire
de l'esclavage, j'ai été attirée, je suis toujours un petit peu attirée par les questions qui apparaissent, qui surgissent. Et l'esclavage, en particulier l'esclavage dans les colonies françaises, a surgi très tard. Je ne vais pas faire l'historique.
Mais nous en avons déjà parlé
en plus
dans ce
magazine. Le déclic, ça a été la loi Taubira en 2001, en disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité et il faut l'enseigner dans les écoles. Donc les écoles se sont aperçues qu'elles avaient une littérature extrêmement maigre, donc il fallait faire des recherches. Et donc les recherches sur l'histoire de l'esclavage en France ont démarré au début de ce siècle. Et ça m'a, moi, j'ai participé au premier colloque que Myriam Cotias, qui dirige un laboratoire sur cette question au CNRS, a lancé en 2006. J'ai trouvé ça passionnant et c'est effectivement depuis le début de ce siècle que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'esclavage africain. Parce que l'histoire de l'esclavage en français, c'était l'Atlantique et les Amériques, beaucoup plus que l'Afrique. Comment ça se passait en Afrique ? Ça, c'était très peu étudié.
Que de chemin parcouru, Catherine Cochry-Vidrovitch, depuis les années 60. L'histoire africaine est devenue, un peu grâce à vous également, vous y avez contribué, une histoire mondiale.
C'est vrai que l'histoire africaine, maintenant, c'est devenu, comme les autres savoirs, un savoir international. Et on ne peut plus rester isolé sur le savoir de langue française, qui peut être très riche, mais qui est très peu abondant si on compare à l'abondance de la littérature, ne serait-ce qu'en langue anglaise, qui vient des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne et d'une partie du reste du monde. Donc le savoir en histoire africaine, c'est un savoir complètement global maintenant.
Et vous êtes bien placé pour alimenter le débat sur la mémoire et l'histoire, faire le distinguo entre la mémoire et l'histoire.
Ah oui, parce que les mémoires ont été extrêmement, enfin restent, mais il y a un moment on a beaucoup parlé de l'afrocentrisme et de l'eurocentrisme, c'est-à-dire que les Européens, c'est vrai en général, nous pensons le monde à partir de nous-mêmes, c'est logique. Mais effectivement, le travail sur l'histoire africaine, surtout à ses débuts, c'était d'essayer de penser l'histoire de l'Afrique à partir de l'Afrique, c'est-à-dire de se défaire de tous les préjugés et les concepts à partir de la France. Et ça, c'était mon travail dès le démarrage. Et du côté africain, ça a été la même chose. C'est-à-dire que nous allons faire une histoire, enfin, un certain nombre d'historiens africains d'Afrique, ou des États-Unis d'ailleurs, des African Americans, ont eu ce mouvement-là très fort dans les années 70-80. Il n'y a que nous qui pouvons faire l'histoire de l'Afrique parce que nous sommes noirs. Et bon, c'est aussi sot que le contraire. Je les renvoie dos à dos, disons, parce que les regards croisés, c'est absolument fondamental. Alors on a dépassé ça dans l'ensemble. Ça c'était très fort dans les années 70-80. Et maintenant, du côté africain-américain, c'est pas toujours évident.
Oui, c'est un peu plus nuancé.
La color bar est tellement pesante, et on le comprend, que tout se lit, ou presque tout se lit en blanc et noir.
La couleur de peau, vous voulez dire
Oui. Enfin, au sens propre.
Au sens propre.
Et puis alors, il y avait le fait aussi que tous les spécialistes d'histoire africaine subsaharienne étaient blancs. Et moi, j'ai connu à... Je crois que c'était en 72 à Montréal, un congrès international d'histoire, de savoir africain, pas seulement l'histoire, à Montréal, au Canada, qui avait invité un certain nombre d'Africains, d'Afrique en particulier francophone, parce qu'on était à Montréal, et il y avait les Black Panthers des États-Unis à l'époque qui sont montés pour dire qu'est-ce que c'est que ce congrès où ils sont tous blancs. Sauf quelques doigts. Ils n'avaient pas tort, effectivement, parce que l'éducation américaine pour les Noirs était si peu développée qu'il n'y avait pas encore de spécialistes. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais en 72, c'était assez intéressant.
Alors, vous avez soutenu, dirigé au moins une cinquantaine de thèses. Certains disent une centaine. Vous êtes plus modeste, vous dites une cinquantaine de thèses, Catherine Kokrividovitch. Et on va terminer avec ça. Vous écrivez dans votre livre quelque chose qui m'a semblé... intéressant, je ne me suis jamais prise pour une Africaine.
Évidemment, il y a des tas de choses. Enfin, j'ai essayé de comprendre le plus possible. De mon enfance clandestine, je dois aussi. J'ai une qualité de silence, c'est-à-dire d'observation. Comme il ne fallait pas parler, ou il fallait dire le moins de choses possible. D'ailleurs, il y a eu toute une période où je n'ai pas parlé du tout, je le raconte aussi. Refus de la société, dont je ne leur parle pas, parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur parle. Donc, ça m'a donné une capacité d'observation. Et je dis, quand je vais en Afrique, je suis comme une éponge, c'est-à-dire j'absorbe. J'absorbe, donc je parle peu, effectivement, j'écoute beaucoup. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait de la bonne recherche quand on est à l'extérieur. Mais il y a des tas de choses, malgré tout, que je ne comprends pas ou que je ne connais pas. Bien sûr, je peux dire « j'aime l'Afrique ». Ça ne veut rien dire « j'aime l'Afrique ». J'aime aller en Afrique, oui. J'aime mes amis africains. Je sais très bien que je ne suis pas de cette culture-là ancienne, évidemment, que j'essaye de la comprendre, que j'échange avec. Mes collègues sont extrêmement gentils. C'est un collègue nigérian qui m'avait trouvé comme sobriquet « Mama Africa ». Mais je sais bien que je ne suis pas la grand-mère africaine.
Alors merci Mama Africa, merci Catherine Kokrividovitch. Je recommande chaudement votre livre, votre autobiographie intellectuelle qui s'intitule « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine ». Il est publié aux éditions La Découverte. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, notre adresse électronique.
Idée au pluriel, @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec Mathilde Brézé, avec laquelle nous parlerons de Marcel Proust. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.